BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Voilà, deuxième partie de ce De quoi je me mêle et j'accueille avec beaucoup de plaisir Christophe Joly. Salut Christophe.
Salut François.
L'un des historiques de De quoi je me mêle. Et quand on est historique de De quoi je me mêle, qu'est-ce qu'on fait? On parle de l'histoire de la tech. C'est logique.
C'est ça, logique. Parfaitement logique.
La boucle est bouclée.
C'est bien résumé, je trouve.
Et après l'iPad, après...
le premier smartphone, le baladeur MP3.
Voilà, enfin tout ça, la PlayStation aussi.
La PlayStation, ouais.
On va se plonger au cœur de l'année 2003, puisqu'il y a 20 ans, donc, pile, naissait en fait un concept qui, à l'époque, nous avait bluffé. Il s'agit, parce que ça existe toujours. De Second Life.
Ouais, Second Life, le 23 juin 2003. Précisément.
23 juin 2003, donc on y est là.
Ouais.
On est pile poil jour pour jour dans la date.
2003, c'est l'année du lancement de l'iTunes Music Store. Ouais. C'est le lancement de Windows Mobile et du Nokia N-Gage.
Est-ce que tu
te rappelles du Nokia N-Gage?
Mais bien sûr que je m'en souviens. J'étais à la présentation presse à l'époque.
Cette console téléphone juste incroyable.
Un truc incroyable qui a été un
bide absolu.
Absolu.
Voilà, tout petit écran. Et surtout qu'il fallait, je l'avais testé à l'époque, et pour téléphoner, il fallait mettre comme ça, sur l'oreille. Donc on était un peu ridicule. moi j'avais envie de dire, non, mais je suis journaliste et je le teste, ça n'est pas mon téléphone. Et ouais, c'était un bide.
Alors il disait qu'à l'époque, tu pouvais brancher un kit piéton, etc., pour passer des coups de fil.
Mais non, ça n'a pas marché du tout. Et maintenant, quand on sait que... Alors ils ont le nez creux, hein, parce qu'aujourd'hui, on joue beaucoup avec nos téléphones.
Ouais.
Mais ils ont une petite longueur d'avance. Ils sont arrivés trop tôt.
C'était en 2003, c'était il y a 20 ans.
C'était il y a 20 ans. Alors le métaverse, parce qu'on parle de ça quand on parle de Second Life, est une notion inconnu en 2003, si ce n'est que le terme remonte à 1992 dans un roman de Neil Stephenson qui s'appelle Snow Crash. Donc le terme est assez ancien malgré tout, et il décrivait dans son roman l'univers dont on parle là. Mais est-ce que tu sais quand est-ce qu'il est entré dans le dictionnaire, dans le petit Robert, le terme métaverse?
Le terme métaverse, il y a longtemps? Non, je sais pas. Je dirais l'année dernière.
Eh bien voilà, c'est cette année précisément, donc c'était proche du but. Et la définition qui en est donnée, c'est un anglicisme qui qualifie un univers virtuel tridimensionnel persistant, offrant à ses utilisateurs représentés par des avatars une expérience interactive et immersive. Donc la définition est longue, mais finalement c'est un terme relativement récent qui est désormais entré dans le langage courant. Alors si ce n'est qu'à l'époque, en 2003, on pouvait avoir déjà des vies parallèles.
Ouais.
Est-ce que tu te rappelles des bimondiens?
Mais bien sûr, je m'en souviens. Évidemment.
Tu étais un bimondien peut-être?
Je pense que j'avais testé ce truc-là qui était à l'initiative de Canal+.
C'est ça. Et de Cryo Interactive, ça s'appelait Le Deuxième Monde. Ça a ouvert en 97, ça a fermé en février 2002, donc juste avant le lancement de Second Life. Et là encore...
Ils étaient vraiment avant-gardistes.
Complètement. Alors ça n'a pas duré très longtemps.
C'était à l'époque où Canal était vraiment faisait beaucoup de choses, était présent sur tout le monde interactif. Ils sortaient des CD interactifs, des trucs comme ça. Et c'était sous l'égide de Alain Lediberder, qui était quelqu'un de génial.
On se souvient effectivement. Alors à l'époque, il s'agissait d'évoluer dans un Paris en 3D avec une communauté virtuelle et une image de Second Life. Et il y a eu aussi les Sims. Je pense que
tu t'en souviens
également.
Évidemment.
Il s'agissait également d'un jeu, là, pour le coup, où il s'agissait de ne rien faire, si ce n'est de simuler une vie parallèle.
Tu as raison, les Sims, finalement, c'est l'ancêtre du métavers, hein.
Bah ouais, c'est un peu ça. Alors, à l'époque, ça s'achetait avec des CD-ROM.
Oui.
Un objet dont on parlera peut-être dans un autre numéro de Nostalgique. Ça s'est vendu quand même des centaines de millions d'exemplaires. Une version en ligne des Sims a été lancée également de 2002 à 2008. Et les Sims existent toujours. Les Sims 4 est gratuit depuis un peu plus d'un an.
Ouais.
Un peu moins d'un an, plutôt, depuis octobre dernier. Et les Sims 5 sont attendus avec une version multijoueur.
Oui, et ça va être un carton, c'est sûr.
Voilà.
C'est certain.
Donc ça marche, toujours. Les Sims ne sont pas morts.
Oui.
Alors, Second Life, à quoi ça sert? Tu l'as dit en quelques mots. C'est un mix de jeux et de réseaux sociaux, plus de jeux que de réseaux sociaux d'ailleurs. Donc, t'évolues en 3D. Mm-hmm. Tu crées ton avatar. Tu peux le customiser, choisir des peaux, des vêtements, une morphologie, on va dire. Tu peux même être un mix d'animal ou d'être humain. En fait, tu fais ce que tu veux de ton avatar.
Oui.
Et ensuite, comme dans la vraie vie, il s'agit, parce que ça existe toujours, comme on l'a dit, d'acheter des produits, des vêtements, des maisons, des terrains, de communiquer avec des autres avatars, des vrais gens, hein, qui sont matérialisés, et tu peux communiquer.
On a les
en
images.
Live.
Enfin, si vous êtes avec nous là en vidéo, on vous diffuse en ce moment des images en fait de Second Life. J'imagine que c'est pas la version 2003, ça, non? C'est peut-être des versions un petit peu plus.
Alors j'ai pris la dernière vidéo sortie par Linden Lab, qui est la boîte qui édite Second Life, parce qu'en fait ils ont mis en ligne une vidéo en mars dernier annonçant une appli mobile. Donc on parle de toi. tout à l'heure.
D'accord, okay.
Et donc, ce sont les images plus récentes. Et j'ai mis aussi les premières images lors du lancement de Second Life. Alors, j'en parlais tout à l'heure, je m'y suis connecté récemment. Ça a quand même pas beaucoup évolué en termes de graphisme. Hein. C'est toujours un peu saccadé, malgré les débits beaucoup plus élevés désormais.
La particularité... Et puis, la puissance informatique aussi qui a évolué en 20 ans. Hein. Aujourd'hui, on a des bêtes de puissance.
Voilà, ça n'a vraiment rien à voir. En 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Est-ce que tu connais la monnaie de Second Life? Parce qu'il y a une vraie monnaie.
Le Linden dollar, je m'en souviens de ça.
Et dès 2004, tu pouvais convertir le Linden dollar en monnaie, en dollars réels, en fait. Et donc, c'est là encore l'ancêtre des crypto-monnaies dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais ça existait déjà. Il était déjà possible de faire fortune parce qu'il y a eu des millionnaires sur Second Life, des gens qui ont fait un vrai business.
Ouais. Vendant des trucs?
En vendant des trucs, voilà, des vêtements, des objets virtuels qui permettaient de customiser ses avatars. Donc l'idée de Second Life, en un mot, il s'agit de reproduire une vie alternative avec tout ce qui est possible de vivre dans la vie, voire pire, parce que quand j'ai lu tout à l'heure les conditions générales, les mises en garde inhérentes au contenu pour adultes, je peux te dire que ça fait peur, mais j'en dirai un mot juste après.
Oui, il y a eu des dérapages et je pense que c'est ce qui a précipité aussi
sa chute, parce que c'est toujours, mais ça baisse intérêt.
Ça baisse intérêt. Ouais.
Donc ça a été lancé en 2003, ça n'a vraiment décollé qu'en 2005.
Ah oui,
aux États-Unis. En 2006, plus encore, au point de faire la une, et c'est là où on en vient aux millionnaires, ça fera la une de Business Week, avec Anshe Yung, Chung. Je ne sais pas si ça te parle, mais on en avait beaucoup parlé à l'époque, parce que c'est l'avatar de la première millionnaire de Second Life. Donc quelqu'un, c'est une personne chinoise qui a fait fortune via Second Life, et elle a quand même fait la une, elle a été baptisée par CNN la Rockefeller de Second Life.
C'est fou ça.
C'est quand même pas anodin.
Ouais.
Et le titre, c'était Virtual World, Real Money. Donc il y a vraiment un vrai business, et en 2007 on commence déjà à parler du business de Second Life. On se questionnait sur le modèle économique de cette appli, et je ne sais pas si tu t'en souviens, mais beaucoup de marques voulaient être présentes sur Second Life.
Bien sûr.
Tu avais American Apparel, IBM, Dell, Lacoste, Jean-Paul Gaultier, Lacom, Dior, L'Oréal, et même la BNP faisait ses recrutements via, pas tous ces recrutements, mais certains de ces recrutements via Second Life.
Ouais, c'est l'histoire qui se répète, parce qu'aujourd'hui, avec le métavers, c'est un peu la même chose.
C'est un peu la même chose.
Plein de marques qui veulent y être. Un peu moins, peut-être, mais en tout cas, il y a l'intérêt.
Alors, désormais, elles sont parties, parce qu'il y a beaucoup moins d'intérêt. Mais Reuters avait un envoyé spécial permanent sur Second Life, sur le monde de Second Life, et même les universités de Stanford et d'Harvard, qui sont même parmi les plus prestigieuses au monde, avaient une représentation sur Second Life. Il y avait des casinos qui permettaient de jouer. Alors, ils ont été fermés en juillet 2007 par Linden Lab, parce que les réglementations entre les différents pays rendaient les choses trop complexes. Et puis, évidemment, se poser la question du blanchiment.
Et oui.
Parce que...
Oui, tu pouvais mettre de l'argent via un compte... offshore ou je sais pas quoi.
La provenance. Et, et ça pouvait poser problème. Est-ce que tu te souviens de la campagne de 2007, la campagne présidentielle?
Alors oui, je m'en souviens.
Parce qu'il y avait des bureaux, en fait.
Oui.
Tous les candidats, quasi tous les candidats...
Étaient sur Second Life.
De Ségolène Royal à Nicolas Sarkozy à François Bayrou, il fallait être là. Alors, c'était du marketing politique, parce que c'était que de l'image, mais c'était le truc qu'il fallait faire. En octobre 2017...
C'était un axe de com comme un autre, en fait.
Bah, oui, c'est comme aujourd'hui.
Il fallait
sur
son site web.
Voilà.
Il fallait
Emmanuel
son site web et son,
TikTok,
et son environnement.
Ça faisait partie du chose. Aujourd'hui, on a d'autres outils. Et en 2007, en octobre, il y a 10 millions de résidents sur Second Life. Donc, c'est quand même un petit pays. Alors, il faut savoir qu'on pouvait avoir plusieurs avatars avec un seul compte. Donc, ça minore un peu le chiffre, mais bon, c'est quand même assez conséquent. Et je vais te donner un chiffre incroyable. Tu connais l'Institut Gartner,
qui
est connu pour son sérieux.
Pignon sur rue.
Il avait prévu à l'époque, en 2007, qu'à la fin 2011, 80% des internautes auraient une seconde vie dans un univers virtuel.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, on est en 2023, on n'y est pas.
Le consultant de Gartner qui a écrit ça...
Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui.
Je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui. Peut-être qu'il est sur Second Life.
Voilà, peut-être qu'il répare des smartphones, on ne sait pas. 2007 sera donc l'année de l'apothéose, mais ce sera aussi l'année du déclin, avec des problématiques financières, notamment des banques qui se sont créées sur le site Second Life et qui ont fait faillite. La plus connue, c'est Jinko Financial, qui a fait faillite parce que il pratiquait ce qu'on appelle la pyramide de Ponzi.
Ah oui.
Si tu connais ce principe.
C'est un truc terrible, en fait.
C'est terrible, en fait. Ouais. L'idée, c'est de rémunérer avec de hauts rendements les gens qui investissent sur ces plateformes.
Pour créer une plateforme, en fait, et un attrait.
C'est ça. Et en fait, ce sont les nouveaux entrants qui financent.
Oui, qui payent en fait les.
Et le plus connu de ceux qui ont pratiqué, c'est Bernard Madoff quand même. Oui. Donc
il y avait ça sur Second Life à l'époque.
Et il y avait ça sur Second Life. Jinko a mis la clé sous la porte. Ils ont fait faillite. Désormais, en 2008, Linden Lab a imposé à ce que les banques sur Second Life aient une correspondent à une banque réelle, en fait. Donc, je suis la BNP, je pourrais une banque, c'est là, oui. Parce que j'ai un vrai réseau. Je suis adossé à
des réglementations. Oui, c'est un peu une succursale virtuelle d'une c'est banque ça. Traditionnelle.
Et adossé à une réglementation dans la vraie vie. Là, retourne vraiment en 2010. Facebook et les réseaux sociaux sont passés par là. Il y a eu un effet des jeux multijoueurs. World of Warcraft, je ne sais pas si tu es adepte de ce type de jeu, mais ça te prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps.
Oui, on a parlé dans le podcast. Et ça fait moins de temps à consacrer sur Second Life.
Là,
qui en plus, c'était l'oisiveté Second Life. Hein. Il n'y avait pas grand chose à faire. Tu te baladais.
Voilà.
C'est ça, tu rencontrais des gens.
C'est pas un jeu, en fait.
Non.
On a un peu de temps à perdre.
C'est un univers un peu particulier.
Et c'est ce qui est intéressant dans le profil des gens qui utilisent encore Second Life, parce qu'il y a quelques études. On n'a pas full de chiffres, hein, sur Second Life. Ils sont assez discrets quand même chez Linden Lab. Mais on a quelques éléments quand même. Si ce n'est que, les entreprises quittent Second Life à partir de 2010 les unes après les autres. Finalement, il n'y a pas de business, ça fait pchit, hein.
Ouais.
Espèce de, comme la bulle Internet à un moment donné. Linden Lab doit se séparer d'un tiers de ses effectifs, donc le vent tourne. Et en 2020, ils avaient un projet qui s'appelait Sensor VR de réalité virtuelle qu'ils abandonnent.
Donc,
ils se consacrent désormais au développement de la marque et de l'appli mobile dont on parlera tout à l'heure. Alors, on l'a dit, Second Life n'est pas mort. J'y suis retourné. Selon une dirigeante dans une interview qu'elle a donnée au journal du Net, l'une des patronnes de Linden Lab, il compte 73 millions d'inscrits depuis la création. Donc c'est pas anodin. Il considère qu'il y a 200
millions. Enfin, sur ces 73 millions, il y en a combien qui sont encore présents, quoi.
Voilà. Mais ça, on a des chiffres là pour le coup. Il y a 200 000 utilisateurs actifs journaliers. C'est quand même pas rien.
C'est pas anodin.
Une petite grosse ville, je sais pas. Mmh. Et il y a 30 à 50 000 résidents qui seraient connectés simultanément. Et le PIB, écoute-moi bien, est estimé à 650 millions de dollars. Donc c'est quand même pas anodin.
Ce
sont des sources Linden Lab. On ne sait pas dans quelle mesure on peut les croire sur parole.
On peut les croire. Ouais.
Mais 650 millions de dollars, c'est un petit pays en voie de développement. Ça peut être un pays d'Afrique, ça peut être. C'est beaucoup plus important que Tuvalu. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce petit État qui a fait fortune en vendant le Point TV.
Tout à fait.
Donc c'est pas complètement anodin à la condition que ce soit avéré. On peut toujours s'abonner à Linden Lab, à Second Life. Ça coûte 6, 12 ou 30 euros par mois. Alors j'y suis allé. Je me suis inscrit sur la plateforme gratuite, parce que j'avais pas l'intention de payer, et je me suis retrouvé dans l'univers que je connaissais en 2007 quand je m'étais inscrit. Et je te le disais tout à l'heure, je suis allé sur les mises en garde inhérentes au contenu adulte, parce que ça m'a interpellé. Donc globalement, on y joue aux cartes, on discute, on voit des gens, on y parle beaucoup de sexe, et c'était l'une des particularités à l'époque. Et avant de pouvoir accéder au contenu adulte, ce que je n'ai pas fait, mais je me suis arrêté à la mise en garde. On y parle de violence, de mutilation, de drogue, de scènes de sexe très hard, de zoophilie. En clair, sur Second Life, visiblement, tout semble possible. Et j'ai trouvé ça assez effrayant parce que il n'y a pas d'autre modalité de contrôle. Mmh. C'est un peu la problématique de l'accès aux sites porno aujourd'hui, hein, ce à quoi travaille le gouvernement français. Et j'ai trouvé ça assez effrayant, en fait, de cette seconde vie. Imaginaire certes, mais qui renvoie quand même des images de violence qui semblent avérées.
Ouais, on va dire que voilà, il y a aussi un peu les bas-fonds de notre société qui sont représentés sur Second Life.
Et le pire des bas-fonds, je le crains. Ceci étant dit, le design est quand même très daté, on est très très 2000. Oui. C'est toujours assez saccadé, il est arrivé que mon avatar se perd dans les décors. je l'ai retrouvé après, donc par rapport à une PS5 par exemple, on est quand même des années-lumière.
C'est clair.
L'ergonomie. Pareil, c'est quand même pas top. Moi, je m'y suis perdu. Hein. J'ai pas réussi à retrouver mes petits dans les différents paramètres de.
Mais est-ce que t'as trouvé ça des moments sympas ou est-ce que c'est chiant, quoi?
Non. Alors, je vais reprendre ton terme. J'avais trouvé ça chiant en 2007. J'ai trouvé ça chiant en 2023.
D'accord.
Et mon temps de cerveau disponible n'est pas suffisant. En 2007, j'avais pas vu l'intérêt, en fait. Si ce n'est que les gens qui se connectent toujours sur Second Life sont plutôt plus âgés, ils ont mon âge.
Mm-hmm.
Ce sont des gens qui se sont connectés globalement au début.
Voilà, qui ont peut-être cette nostalgie d'avoir vécu le début d'une aventure, en fait.
Et qui, ils ont constaté, des sociologues ont travaillé dessus, que ce sont des gens qui sont isolés, qui sont sur Second Life. Et qui trouvent des gens à qui parler sur cette plateforme. Mm. Ça, ce titre-là, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Ce sont des gens qui, parfois, sont exclus de la société également.
Mm-hmm.
On parle de personnes avec des troubles, avec des handicaps, avec des choses comme ça.
Si ça leur permet d'avoir un terrain d'expression, pourquoi pas.
Voilà, pourquoi pas. Moi, non, j'ai trouvé ça vraiment très ennuyeux. Ça ne m'a pas beaucoup intéressé. Ça ne m'a pas intéressé parce que, tu l'as dit, c'est une forme d'oisiveté. Moi, il me faudrait une finalité pour
oui, c'est ça.
Pour
ça. C'est ça. Et puis, on a deux, trois trucs à faire, quoi.
Et on a quelques trucs à faire.
C'est ça le souci. Tu nous disais que, malgré tout, le projet n'est pas enterré.
Non.
L'Eden Lab, donc, veut sortir une appli.
Voilà. Ils en ont parlé en mars dernier. Ils n'ont pas donné d'éléments de calendrier. Et ils ont mis sur leur compte YouTube une vidéo présentant ce à quoi pourrait ressembler l'appli l'Eden Lab. Ils l'ont confié à une boîte hyper sérieuse dont je ne me rappelle plus le nom, mais qui fait référence dans le domaine des applis mobiles. On n'a pas de calendrier, effectivement. Voilà. C'est ce que, pour ceux qui sont, c'est ce qu'on voit à l'écran pour ceux qui voient la vidéo.
Mais c'est un petit peu plus joli, j'ai l'impression.
Ça va être un peu plus joli. Je pense que la qualité de l'écran, disons, la définition sera d'une qualité supérieure. À voir, à tester. Peut-être qu'on en reparlera. En tout cas, Second Life n'est pas mort. Moi, je ne soupçonnais pas que c'était que l'animal était encore vivant.
Ouais, et oui. À ce point. Voilà, il bouge encore.
Il bouge encore.
Voilà. Et bientôt, il va bouger sur votre mobile.
Voilà, on sera amené à en reparler, j'imagine.
Mais tu as raison. Tu faisais la comparaison avec les Sims. Mais finalement, les Sims, c'est aussi l'ancêtre
c'est
du métavers.
Mais je préfère les Sims.
Ouais.
Je trouvais que l'environnement était plus sympa, c'était plus ludique.
Ouais, tout à fait. Plus
il y avait un peu plus de jeu, il y avait quand même quelque chose à construire.
Exactement.
Je suis plus fan de ça.
Et tu as raison, hein, les Sims 5 est très attendu, hein, ça devrait sortir bientôt. Et ça va cartonner, ça c'est certain.
C'est assez probable.
Merci beaucoup Christophe.
Merci beaucoup.
Voilà, on referme ce livre un peu poussiéreux de Second Life, mais c'est toujours très bon de se replonger comme ça dans
la les souvenirs.
Voilà, 20 ans jour pour jour.
Jour pour jour, 23 juin 2003.
Christophe, je dis donc, tu reviens quand tu veux.
Avec plaisir.
Et ce de quoi je me mêle est terminé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à réagir, à nous laisser des petits messages avec le hashtag DQJMM sur Twitter. Portez-vous bien. Et merci d'être fidèle à cette émission. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.